Un événement inédit s'est déroulé à Toulouse ces dernières semaines, l'ouverture de deux sarcophages des comptes de Toulouse. Pour nous en parler ce matin, nous recevons l'adjointe au maire et vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme et du patrimoine. Bonjour Annette Léniaud.
Bonjour.
C'est quand même une sacrée opération qui vous est arrivée et qui n'arrive certainement pas tous les jours d'ouvrir un sarcophage. Dites-moi ce qui a motivé une telle décision.
Alors, ce qui a motivé la décision, c'est d'abord tous les aménagements que nous avons réalisés sur la place Saint-Cernin, qui est d'abord l'aménagement de la place qui permettait de mettre en majesté, si je peux dire, la basilique Saint-Cernin. Et donc tout l'aménagement urbain a été terminé. Il est prévu également un aménagement de la basilique elle-même. Donc nous avons des travaux de restauration assez ambitieux à l'intérieur de la basilique. Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y avait ces enfeux qui renfermaient trois sarcophages. Alors à l'origine, qui renfermaient trois et même quatre, trois sarcophages et un petit tombeau. Et le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a souhaité restaurer cet enfeu et surtout restaurer les sarcophages qui étaient à l'intérieur. Donc c'est dans un souci de parfaire, si je peux dire, l'aménagement et la restauration de la basilique Saint-Cernin qui, je le rappelle, est un des édifices les plus visités de Toulouse, qui est
un joyau gothique. Oui. Comment s'est passée l'ouverture de ce sarcophage? J'imagine qu'il a dû être, il a dû falloir être très prudent. Comment vous vous y êtes pris?
Alors, il faut être très prudent parce que d'abord, le sarcophage, enfin, je n'ai assisté qu'au deuxième sarcophage. À l'ouverture du deuxième sarcophage. Il faut être très prudent parce que ce sarcophage était endommagé parce que je pense qu'il devait être fixé sur les parois. Il avait dû, à un moment donné, se déceler et il a été, pas restauré, parce que le mot serait, c'était une rustique restauration, mais il a été rebouché, si je peux dire. Donc, il avait été un peu endommagé. Donc, ce sont des sarcophages qui datent du paléo-chrétien.
Eh oui.
Donc, ce sont des sarcophages qui sont excessivement anciens. Et donc, il fallait beaucoup, beaucoup de prudence pour les déplacer, oui, et puis pour l'ouvrir encore plus. Alors, nous avons assisté, mais quasi religieusement, hein, parce que nous étions très peu nombreux, personne ne bougeait. Enfin, c'était un moment assez exceptionnel. Il n'y avait pas un bruit.
Quasi religieux.
Totalement. Et il y a deux personnes qui manipulaient une espèce de grue avec des sangles pour. Alors, il y a eu toute une démarche avec précaution pour soulever la pierre de recouvrement,
le couvercle,
si je peux dire. Donc, avec des bois pour essayer de soulever petit à petit. En fait, c'est un travail très, très minutieux qui a été fait. Il y avait des sangles et un palan qui a été. La couverture du sarcophage a été ouverte. Et là, c'est un moment assez particulier parce qu'on a 2000 ans d'histoire devant ses yeux,
ça,
quand même. Hein.
C'est
assez extraordinaire. Quoi, là. Donc, c'est un moment. Alors, c'est à la fois. C'est très émouvant parce que qu'est-ce qu'on va découvrir? Et puis il y a un amoncellement de terre, de briques, parce qu'il y avait les briques. Le sarcophage avait été restauré avec des briques de façon très très grossière, donc c'était très endommagé et les restes de la sépulture avaient été poussés, si je peux dire. Donc c'était un amoncellement d'ossature. C'était pas un corps. Il n'y avait pas un corps. C'était un amoncellement d'ossements. Mais c'est quand même très émouvant de savoir que ça date de tant de temps.
C'est
quoi,
ça. Voilà. Où est-ce qu'ils étaient ces sarcophages avant qu'ils soient retirés et mis à l'abri et avant cette ouverture?
Ils étaient dans l'enfeu. L'enfeu, en fait, c'était une cavité au sein de la basilique dont l'origine est pas daté, parce que je crois que les premiers témoignages de l'existence de l'enfeu datent de la fin du XVe siècle, mais c'est bien plus ancien. Donc cet enfeu était une espèce de cavité dans laquelle, alors de cavité qui était décorée, hein, qui était pas, c'était pas un trou, c'était une décorée, et il y avait là trois sarcophages paléo-chrétiens et au fond un plus petit. Donc
C'était à l'extérieur de la basilique ?
C'est à l'extérieur. Ça se voyait, on passait devant.
Oui, on passait devant.
On passait devant parce que je crois que c'est Viollet-le-Duc en 1895 qui a restauré l'enfeu, c'est-à-dire qui a enlevé les... Parce que c'était muré.
Ah.
Donc, qui a enlevé les murs et pour permettre de voir la cavité avec les sépultures. Et donc, on passait devant, il y avait des grilles, il y avait une grille qui les protégeait.
Oui, tout à fait. Mais
on passait devant, qui regardait les parce que c'était peu restauré, c'était difficile de les remarquer.
Et puis très pollué quand même, marqué par la pollution.
Marqué
gris,
depuis tant de temps, ils étaient gris, noircis, ils étaient pour certains endommagés, enfin personne ne regardait. Et c'est Dominique Baudis, le premier, qui en 1996, quand il y a eu une restauration de la basilique, a fait sortir le premier sarcophage qui a été ouvert. Alors il y a eu des études, de longues études qui ont été faites sur les corps. Je crois qu'il y avait une vingtaine de sépultures. Et on a pu, grâce à des techniques qui sont très très contemporaines, mais qui même sont actuellement encore meilleures, identifier. Parce qu'il y avait des vêtements et alors,
on a trouvé des bribes de tissu.
Voilà,
alors
des bribes de tissu et avec qui ont décelé à la fois, on a imaginé de l'ADN et puis on a analysé tout cela et on a pensé que cette sépulture était celle de Guillaume III Taillefer, voilà, qui était un comte de Toulouse.
Alors ça c'est pour le
ça c'est
la
le
sépulture
premier, c'est la première ouverte. Sépulture qui a été ouverte grâce à la première restauration de la basilique a été faite par Dominique Baudis.
En 1989, après.
En 89, oui, pardon. Voilà. J'ai dit 96, non, c'est 89,
89
je pense. Oui,
d'accord. Voilà. Je rappelle que je suis en présence d'Annette Laigneau, qui est adjointe au maire et vice-présidente de la métropole de Toulouse, en charge de l'urbanisme et du patrimoine. Ces sarcophages qui ont donc été ouverts là, dans le courant de ce mois d'avril, comment vous pouvez nous les décrire ?
Alors ils sont très très c'est une ils sont très travaillés extérieurement, ils sont très riches en paléochrétiens. Donc c'est vraiment des sarcophages qui sont très très anciens.
C'est de la pierre ou
c'est
du marbre ?
C'est de la pierre et alors de la pierre qui est sculptée.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et alors sur les sarcophages qui ont été sortis les derniers, je crois qu'il y en a un qui mentionne le nom de Ponce. Je crois que c'est un comte de Toulouse, lui aussi. Je crois que on a pu identifier des noms. Voilà.
Oui, j'ai lu que effectivement sur cette inscription notait ici repose Poncius,
voilà,
comte de Toulouse.
Voilà, c'est
voilà.
Ça.
Donc là, on a quand même une preuve.
Donc, alors maintenant, est-ce qu'à l'intérieur, ce sont réellement les ossements de Ponce, parce que c'est très ancien quand même.
Et oui, c'est ça. Les recherches nous le diront peut-être.
Il faut. Alors maintenant, actuellement, c'est une véritable enquête. C'est extraordinaire.
Oui.
C'est presque une enquête policière. C'est une enquête fabuleuse qui va être déclenchée. Il y a un comité scientifique qui a été créé. Il y a de la DRAC, bien sûr, il y a l'université, il y a l'Institut de recherche archéologique, l'Atelier du patrimoine qui est riche en professionnels et en paléontologues qui vont travailler là-dessus. Donc
ça fait une équipe de combien de personnes ?
Je ne sais pas, alors ça je ne saurais pas vous dire, mais une dizaine de
une
personnes
dizaine.
qui vont. Et puis l'université, donc à partir du moment où il y a l'université, ça fait des petits. Donc il y a de grosses études qui vont être lancées pour identifier, alors à partir du carbone 14, partir de recherche
de prélèvement
ADN. Et là, la seule chose que l'on peut faire, c'est de le faire par comparaison avec ce que l'on a identifié, que l'on connaissait, qui était sur la sépulture précédente.
Donc on va pouvoir peut-être identifier qu'il y a un lien héréditaire
entre la première ouverture réalisée à la demande de Dominique Baudis et celle-ci qui est donc c'est par comparaison parce qu'on n'a pas d'autre.
Oui, oui, c'est le point de référence.
Voilà. Mais bon, il y a des recherches qui sont faites, des recherches historiques en même temps qui sont faites de connaissances de par le monde, parce que je crois que les contes ils sont partis un peu partout.
Oui,
quand même,
ils ont essaimé. Donc,
ils ont essaimé.
Oui.
Voilà.
Oui. Et vous disiez que quand ces tombeaux ont été ouverts, enfin ce tombeau, puisque vous n'avez assisté qu'à l'ouverture d'un seul, vous avez donc constaté la présence de briques, la présence d'ossements qui étaient un petit peu en vrac,
oui,
on va dire.
Voilà. Et la première, voilà, parce que ce sarcophage avait probablement été endommagé et restauré à une époque que je ne connais pas, hein. Mais il a été donc on voyait que les ossements avaient été un peu poussés parce que par des débris de
briques,
de terre,
alors,
de briques, ouais. Voilà. Donc, mais le précédent auquel j'ai pas assisté à l'ouverture de ce précédent, là par contre il y avait une espèce de quand il a été ouvert, il y avait comme une mise en scène dans le positionnement des ossements.
Comme si
crânes,
c'était le squelette qui n'avait pas bougé, en fait.
Les crânes étaient posés. Non, je pense que ça avait été
réorganisé
à un moment donné. Donc, est-ce que ce sont est-ce que c'est les ossements d'origine? Est-ce que ce sont des ossements qui ont été introduits après? Donc, probablement issus de la famille aussi, hein, parce que pour avoir le droit d'avoir une sépulture dans un sarcophage des comtes de Toulouse, voilà, donc je pense que c'est
la
lignée.
Il doit y avoir une lignée.
Mais il semblerait, enfin, c'est ce que l'on m'a dit, hein, que j'ai vu, puisque j'ai aperçu ce contenu, mais c'était un petit peu mis en scène, voilà, Donc, et là, il y a des crânes, donc... on peut identifier plein de choses à partir des os, de la taille des os. Puis il y aurait plein d'études pour savoir si c'était en bonne santé, enfin il y a plein de recherches qui sont faites, mais c'est passionnant.
C'est passionnant.
Ah, oui. Ah oui, quand je suis partie, j'ai discuté avec une paléontologue, j'ai dit mais quel bonheur vous avez d'être passionnée d'abord.
C'est vrai.
Et puis de chercher
à comprendre.
Oui, moi je trouve que ils étaient heureux tous ceux qui étaient autour du sarcophage. Ça m'a frappé de voir autant de gens passionnés, impatients. Ouais.
Ça n'arrive pas tous les jours, c'est vrai.
Ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, c'est des métiers de passion que je trouve exceptionnels.
Combien de temps vont durer ces recherches?
Plusieurs années.
Ah, plusieurs années.
Ah oui. Oui. Je crois que même... Il y a des travaux qui ont été rendus. En 89, oui, ça a été... Le premier sarcophage ouvert, c'était 89. Je crois qu'il y a eu des publications en 96. Et si j'ai bien entendu ce qui nous a été expliqué le jour de l'ouverture, au mois d'avril, on n'a pas encore totalement terminé les recherches de cette époque-là. Donc vous voyez, c'est long, c'est très long. Malgré tout, c'est très long.
Et d'autant plus que les techniques évoluent aussi, donc il y a certainement des choses qu'on ne pouvait pas
rechercher. Et qu'on se permet de compléter maintenant.
Une question, Annette Léniaud, sur l'après. Après ces recherches, que vont devenir ces sarcophages?
Alors, les sarcophages vont être moulés. On va faire un moule de ces sarcophages pour le garder. Alors, est-ce que dans l'enfeu, on remettra les sarcophages d'origine ou les moulages, les moules? Peut-être qu'on mettra les. Enfin, j'ai pas de.
On ne sait pas encore.
Je ne sais pas répondre. Mais c'est vrai que les sarcophages peut-être pourraient être conservés soit dans la basilique, les originaux, j'entends.
Oui,
soit dans la basilique, soit dans le musée Saint-Raymond, qui est un musée exceptionnel qui est à côté. La question est posée. Voilà. Mais il y aura un moulage de ces sarcophages pour en garder une trace.
Et il me semble avoir vu que les comtes de Toulouse avaient souhaité être enterrés à Saint-Sernin, au plus proche en fait de Saint-Saturnin, l'évêque de Toulouse.
Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Tout à fait.
Est-ce que justement vous pouvez nous donner en quelques mots qui étaient ces comtes de Toulouse?
Alors, les comtes de Toulouse, c'était les princes du Sud, en fait, les comtes de Toulouse, et qui étaient À une époque, je pense, où les rois qui étaient des... je veux dire peut-être une bêtise, mais des Carolingiens, non, peut-être quelque chose comme ça, étaient en recul sur le sud de la France. Donc les comtes de Toulouse sont devenus
très puissants.
Très puissants. Mmh. Alors c'était les princes du sud.
Avec une province qui s'étendait quasiment de l'Aquitaine jusqu'au
Languedoc.
Au Languedoc,
oui,
c'est ça.
Donc c'était une dynastie qui était très très puissante, mmh. héréditaire. Et qui depuis qui ont dominé jusqu'à l'époque des Cathares, la croisade des Albigeois, et puis le roi de France
a repris possession.
Oui,
bien sûr. Merci beaucoup, Annette Legnaud, de toutes ces précisions passionnantes sur cette belle épopée et l'ouverture de ces sarcophages qui étaient donc dans l'Enfeu à côté du transept de la basilique Saint-Cernin. Merci pour ce beau récit et toutes ces émotions qui en découlent.
Merci à vous.